Kakene, Somogodun, Ayemusa Dumbia and a Humble Ark, Bamako. Et oui, bonjour tout le monde, bienvenue à vous et bienvenue dans cette pirogue volante de l'émission Giramundo. Aujourd'hui, on se transporte du côté du Mali et on est en compagnie de Manjul, le maître d'œuvre du studio Humble Ark, qui se trouve être le temple du reggae au Mali. Et on vous souhaite un très bon voyage dans ces vibrations très très roots, Rastafari. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Giramundo, aujourd'hui en ce 24 février 2007 et on vous a invité à prendre la pirogue volante pour se transplanter du côté de Bamako au Mali, dans le temple du reggae, en présence du maître d'œuvre et j'ai nommé Ras Manjul. Aïnaï mon frère.
Aïnaï, give thanks, merci bien, bienvenue à vous et bonjour au Québec.
Merci beaucoup de nous recevoir et justement pour un peu que nos auditeurs apprennent à connaître qui est le personnage de Manjul, on aimerait savoir mon frère un peu ton parcours initiatique à travers le reggae et la foi Rastafari.
Bon, c'est pas évident comme ça, mais on va essayer de replanter un décor quoi. Bon, moi je suis né à Barbès dans le 18e arrondissement de Paris et Bon, ben voilà, on a grandi dans un quartier comme ça, cosmopolite, et ma famille aussi est cosmopolite, donc bon, c'était le décor, on ne s'est pas posé de questions jusqu'à l'entrée au collège. Et bon, ben voilà, certains sont rentrés aveuglément de là-dedans, et puis d'autres comme moi, ben on n'a pas suivi ce train-là, et sans trop savoir ni pourquoi ni comment, mais on n'était pas contents, on était même fâchés. Et pas satisfait du tout de ce qu'on nous apprenait, du monde qu'on voulait nous faire vivre, du système, de l'histoire, de la version de l'histoire qu'on voulait nous imposer, l'origine des choses, etc. Et donc, insatisfait, finalement, on était tous à la recherche de quelque chose. Et le reggae, pour pas mal d'entre nous quand même, même si ça a été qu'un passage pour d'autres, ça a été vraiment le passage de la destruction et même l'autodestruction, les conflits avec la famille, les parents, le système, l'école, le passage de ça à maintenant la construction. Et c'est là que moi, en tout cas, j'ai découvert le sens de ce que peut être la rédemption, sans parler de grands crimes et de grandes choses. C'est que c'est justement le passage du néant, entre guillemets, où on n'a rien envie de faire et on n'a rien envie d'aimer, à l'inverse, où maintenant on a envie de faire, on a envie d'aimer, on a envie d'apprendre. Et donc c'est le reggae qui a été révélateur. Le reggae, on l'a découvert avec des rastas qui étaient dans le quartier, qui passaient pas mal de temps souvent avec nous. J'ai toujours ce souvenir. Et donc maintenant voilà le truc, c'est rentré comme ça culturellement. C'est au jour le jour, sans y penser, il y a eu une évolution, une transformation, chaque minute, chaque instant. Et qui m'a mené dans ce chemin, quoi. Dans ce combat, dans ce chemin, dans cette louange.
Comme une mission, comme un appel. Et puis, ta naissance en tant qu'artiste, c'est plutôt du côté de l'océan Indien que ça s'est produit.
Eh bien, bon, il y a eu ça à Barbès, jusqu'à même ma rencontre avec Baco, qui était un des premiers à avoir un home studio dans le quartier. Et on passait pas mal de temps chez lui. Et lui, vraiment, il nous a donné du courage, parce que avant ça, c'était les gros studios, les gros producteurs, sinon même une maquette, tu faisais pas. Et donc, lui, il nous a permis d'acquérir certaines petites machines dont on ne se servait plus et qui, nous permettaient d'apprendre et d'essayer de faire des choses chez nous, quoi. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu quitter. Je vivais déjà avec ma femme, qui est originaire du Mali, et on ne se sentait pas prêt pour venir en Afrique. Donc on se questionnait, et Baco nous a montré la direction vers Mayotte, où voilà, on a été, on a vécu près de 3 ans et demi, et là on avait des conditions vraiment pour INI, je crois, idéales. On était en Beauce, à 5 km du village, on n'avait pas d'électricité, la rivière, la mer juste à côté, et on avait besoin de rien, on était vraiment bien. Seulement, j'étais toujours pas, dans un sens, j'étais satisfait, et d'un autre sens, il y a quelque chose qui me satisfaisait pas, c'est que je sentais que j'avais quelque chose à faire sur Terre avant de vivre ce que je vivais, quoi. Donc, la décision a été de retourner à La Réunion, parce que à Mayotte, il fallait faire 30 km pour répéter, pour brancher les instruments, pour faire quelque chose, et les petites machines qu'on avait ramenées de Barbès, et on pouvait pas les brancher, on pouvait pas s'en servir. Et La Réunion, ça restait un bon compromis, parce qu'on pouvait pas retourner en France pour l'instant, et non plus en Afrique. Et La Réunion, ben là, il y avait les conditions de vie qu'on voulait, et avec aussi plus d'électricité, plus de choses, quoi, plus de concerts, plus d'artistes, plus la communauté aussi resta plus grande, parce qu'à Mayotte, on était 5, et c'était un grand combat aussi. Et même si aujourd'hui, les frères là-bas peuvent témoigner du travail qu'on a mené, parce que bon, ben, il y avait les locaux, il y avait Bob Dailou, il y avait le travail qu'avait fait Baco pendant qu'il y était, mais sinon, c'était là vraiment, encore une fois, position de pionnier, pas vraiment évident. We'll be right back.
Alors, vous les aurez reconnus, c'est bien Amadou et Mariam, une version Rocket Remix de la chanson Biki Miri, mixée au studio Humble Arc à Bamako, et on est en compagnie de Ras Manjoul, qui est le maître d'œuvre. Et on va même boire le thé en compagnie de Ras Manjoul dans ce temple. Alors, mon frère, maintenant, ce serait intéressant que tu nous parles de ce pèlerinage en Afrique qui est passé par le Mali.
Eh bien, le retour, c'est que la musique commençait à ouvrir des portes à La Réunion. On en a profité, on s'est dit c'est le moment peut-être d'y aller. Et on a fait un passage en France de quelques mois. Là, il y a eu pas mal de boulot avec Zena Music, African Brothers, Sugar My Note et autres. Et puis, on est revenu là, donc, en 2001, à Bamako, à la GSMA d'abord, avec ma basse. Et puis, à travers les tournées, les différents travaux en studio que je continue à faire avec La Réunion et la France, et ben, ça m'a permis d'amener des machines petit à petit, et tout en ayant laissé le studio à Sainte-Anne avec Tira et Rouge Reggae à La Réunion, j'ai commencé à monter un autre studio à Bamako.
Et on pourrait dire que ce studio Humble Arc constitue en quelque sorte une forme de révolution dans le paysage musical malien, parce qu'en fait c'est le premier studio, si je ne m'abuse, complètement dédié au reggae et au dub au Mali, et ça a permis donc à des jeunes artistes maliens et autres qui n'avaient jamais eu la chance d'enregistrer dans de telles conditions, donc de faire une sortie sur le marché, de faire résonner leurs vibrations avec un son totalement puissant comme les gens peuvent le constater présentement.
Mais je crois que tout ça, toujours pareil, pas du tout calculé, mais je pense que c'est le même fond en tout cas qu'à La Réunion, dans le sens où c'était également le premier studio reggae Rasta, et ça l'est également au Mali, et je ne l'ai pas souhaité en fait, hein. Ça est comme ça, et ça est sûrement ma mission, ça est sûrement mon rôle, quoi, dans les temps où on est, là où je me trouve, quoi, de perpétuer une certaine tradition.
Il y a eu à travers ça des rencontres justement avec des musiciens de la relève, mais aussi des gens plus établis comme Amadou et Mariam. Bien sûr, du côté du Québec, on les a vus récemment à l'été 2006, donc les gens se rappelleront. Et ça a été pour toi une collaboration quand même qui a permis un rayonnement du studio Humble Arc, on pourrait dire.
Ouais, c'est clair. Bon, c'est déjà un gros travail de fond qu'on mène ici au Mali, parce que c'est vraiment un travail culturel à travers le reggae, à travers Rasta. C'est vrai que les gens ont beaucoup de respect pour Rasta ici, que ce soit même l'armée, la police, et partout, tout le monde a beaucoup de respect pour les Rastas, sauf quelques exceptions vraiment rares. Mais c'est vraiment un travail à mener. Après, c'est vrai que ce travail se mène vraiment dans la société aussi, et c'est toujours pareil, sans le décider, de travailler avec des gens comme Amadou et Mariam ou Salif Keita. C'est aussi rentrer dans le peuple et toucher les gens avec. Parce que c'est ça, et c'est la chose est d'arriver à faire à nouveau se sentir concerné le peuple par le reggae, par leur chose, parce que le reggae vient de là, vient d'Afrique. Et donc c'est un travail qui a plein de sens, et en même temps qui est un énorme labeur aussi, quoi. Donc il y a ce travail là de single, de rencontre avec beaucoup d'artistes des différents pays qui vivent au Mali, et effectivement des gens comme Amadou et Mariam. Et là c'était vraiment une réussite, et je remercie vraiment déjà d'avoir pu participer à ce travail là et c'est vrai que déjà la bénie, quoi, même si c'est pas le meilleur album musicalement d'Amadou et Mariam, je pense que tout le monde est d'accord, mais bon, c'est une coronation, quoi.
Donc, chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Giramundo à CKIA 88,3, une émission toute spéciale qui vous parvient de Bamako au Mali. Et toutes les musiques que vous avez entendues depuis le début de l'émission, c'est tiré de l'album Let's Dub to Mali, le volume 1 qui s'intitule Face au Canou. Et c'est Manjul qui est le maître d'œuvre de toutes ces musiques que vous entendez. Il s'agit, on pourrait dire, d'un voyage aux racines du reggae et de l'Afrique, là où se marient des instruments traditionnels maliens, mandingues, avec le dub, le reggae. J'aimerais, Manjo, que tu nous parles un peu de ce témoignage-là que tu nous offres maintenant sur disque.
Ce témoignage-là a pris une autre forme encore plus puissante ici au Mali, en Afrique, parce que si on considère la musique africaine comme un fleuve, le reggae, c'est un de ses bras. Et par la présence, par le retour de certains Rasta qui évoluent dans le reggae, leur retour en Afrique, et, si tu veux, je pense, correspond à la confluence entre le fleuve et entre le grand fleuve Afrique et la rivière Rasta, quoi. Et dans ce croisement, des musiques traditionnelles de la source africaine et du reggae, il y a un retour aux sources, mais qui prend des formes a priori expérimentales, mais finalement super naturelles, puisque tout le monde le prend vraiment comme c'est. Et c'est ça, quoi. C'est le témoignage d'une confluence culturelle qui se témoigne en musique, qui se matérialise en musique.
Et il y a des choses qui étaient presque insoupçonné, qu'on n'aurait jamais pu imaginer, c'est peut-être le naïbingi, le rythme naïbingi, chanté avec une griotte qui fait un hommage, une louange à Haïlé Selassie. C'est totalement splendide.
Vraiment, mais c'est encore une fois complètement naturel. Je dis ça vraiment pour dire que ça sort pas de mon imagination. Je pense que je suis un outil. On est tous des outils de toute façon et tous un rôle sur Terre. Et le mien, ça doit être ça. Et le naïbingi, si tu veux, avec la musique mandingue et à la fois Haïlé Selassie avec l'histoire du pays, du Mali, et sa grande collaboration avec Modibo Keïta, ça reste encore deux exemples de grande collaboration et de grande amitié et fraternité même entre la confession musulmane et chrétienne, entre la descendance de Keïta, Sundiata Keïta, et l'autre jusqu'à David, en fait. Et voilà, c'est encore une fois aussi ce travail culturel au niveau de Rastafari que de faire connaître aux gens et de réhabiliter aussi Sa Majesté impériale aux yeux du peuple malien et dans leur cœur. Ils ont déjà beaucoup d'estime et de respect pour Selassie par son travail, notamment de l'OUA, l'unité, le travail de résistance qu'il a mené en Afrique. Il est passé très souvent au Mali, officiellement et non officiellement. L'hymne du Mali commence avec les images de Selassie Haïlé et finit avec les images de Selassie Haïlé. Voilà, une griotte qui faisait le fassa, donc l'hommage, la louange et l'historique un peu de Haïlé Selassie en malinké. Et avec, bon ben voilà, ça s'est matérialisé en ayabili avec une kora. Et voilà, et toute la majesté, je pense, que tu ressens vient à la fois de la majesté de la musique mandingue, de la kora et de la musique ayabili. Et de la puissance de Selassie Haïlé aussi, quoi. Bien sûr.
The Naïbingi means to bring universal cooperation, coordination, and even element for all people, which is of righteous good. And this Naïbingi don't mean that it is a plaything. It means that it is for full universal, even resurrection, for all nations, which is of righteous elements. And that is the protest of full Naïbingi. So I and I and I too, to walk it in the fullness of its activity until peace will come to all nations upon earth in the Iowa of Jah Rastafari as coordinator for us all. as coordinator of us all.
Alors, vous venez d'entendre Chant Naya Bingi, tiré de l'album Jatigiya. Et on poursuit avec Africa is Free, toujours tiré du même album, avec DJ Lion et Manjul à Giramundo.
Yami Lion, Africa is free?
No, 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 man, Africa is not free.
And what about the Africans? They are free?
No, 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 man, Africans are not free. Africa is not free, and Africans are not free. Not free from misery, not free from war, not free from international iniquities, not free from vanity. Africans are not free to control the riches of Africa. Not free from the ignorance at all about Africa. cultivated by schools and the media. Not free from debt. Witches. Not free from racism.
Not free to move. To be as man wants and way wants to be.
Why?
Well, for example, ask Mr. Sarkozy. Rasman Jul, l'Afrique libre?
Non, 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 man. L'Afrique n'est pas libre.
Et les Africains, ils sont libres?
Non, 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 man. Les Africains ne sont pas libres.
L'Afrique n'est pas libre.
Et les Africains ne sont pas libres.
Africains, pas libres.
Pas libre, la misère. Pas libre, la guerre. Pas libre des inégalités internationales. Pas libre de la vanité. Les Africains ne sont pas libres de contrôler les richesses de l'Afrique. Pas libre de l'ignorance de tous à propos de l'Afrique, cultivée par les écoles et les médias. Pas libre de la dette.
Quelle dette ?
Pas libre du racisme. Pas libre de bouger. D'être ce qu'un homme veut être, là où il veut être.
Pourquoi?
Ah, dans le cas de la France, aujourd'hui, demande à Sarkozy. Et demande-lui aussi d'où il vient son père à lui.
Oh yeah.
On est tous de passage ici.
Est-ce qu'Africa est libre? C'est la question qu'on peut bien se poser aujourd'hui quand on voit les maux qui affligent l'Afrique avec ces politiques d'ajustement structurel imposées par le FMI et la Banque mondiale et avec ce pillage excessif des ressources de tout ce qui vient alimenter le système Babylon. Et c'est justement un témoignage politique qui est fait à travers le reggae.
Oui, ben, c'est la réalité, et d'autant plus là, si on veut parler sur le plan des frontières et de la liberté des gens de se mouvoir sur Terre, c'est pas équitable, c'est pas juste. Et dans mon cas, par exemple, si je veux faire venir des musiciens de France pour travailler au Mali, c'est super facile, ils peuvent même prendre leur visa une fois arrivés à l'aéroport. Dans l'autre sens, là, c'est un vrai problème.
Combat passe justement, les armes sont celles du reggae, qui est une musique qui n'a plus de frontières, on sait bien. On peut être autant chez les aborigènes australiens, entendre du reggae, que chez les Indiens Hopi de l'Arizona. Et le reggae a cette possibilité, ce don d'ubiquité et ce don de faire résonner profondément le côté, la vibration profonde, l'humanité, le côté humaniste de l'être.
Bien sûr, et de toutes les façons, on est tous de passage sur Terre. On est tous de passage là où on est, au moment où on y est. Et le voyage, c'est bon pour l'homme.
Donc on va ouvrir les frontières en musique avec Djalamalé par Manjul et Adama Yalomba.
Je suis Adama Yalomba, vous écoutez CKIA 88.3, la station la plus nomade à Québec.
Djalamalé, Djalamalé,
88.3.
Djalamalé, Djalamalé, Djalamalé,
Alors, vous êtes toujours à l'émission Giramundo à CKIA 88,3 en compagnie de Pascalo et de Manju. Et ce que vous entendez, c'est la pièce Jalamale chantée par Adama Yalomba. C'est de l'album Dub to Mali, Jatsigia. Alors, on continue sur les vibrations de cette puissante musique dub. Donc, branché sur les sources du reggae au Mali. On voyage en pirogue sur le fleuve Niger avec Joliba Flow. Tiré de l'album Dub to Mali, Jatigia, qui sera disponible à partir du 23 avril prochain en importation. On espère que ça sera disponible au Canada. Joliba Flow avec la cantatrice Asetu Kanute et Manjul.
Riva Nai
Vous venez d'entendre Joliba Flow tiré de l'album Dub to Mali, Jatsigiya. Alors, chers auditeurs, j'espère que vous êtes en grande séance de méditation, que vous êtes en train de siancer ou bien de léviter à quelque part au moment où vous entendez ces vibrations, parce que c'est très puissant. Et on est en compagnie du frère Manjul qui nous fait le bonheur de nous emmener ces vibrations, de nous faire résonner ça au plus profond de notre conscience, de notre esprit. Manjul, qu'est-ce qui se passe avec cet album? Raconte-nous un peu les projets à venir avec Jatsigia.
Bon, la sortie de Jatsigia, ça va être aussi le démarrage d'une nouvelle tournée en Europe déjà, cet été, donc été 2007. Et puis après, ailleurs, peut-être au Canada, en tout cas, partout où on peut aller, on sera content d'y aller.
Ça nous fera toujours un grand plaisir de vous recevoir. En attendant, on invite nos auditeurs à continuer à écouter l'émission Giramundo. Pour la deuxième heure, on continue notre périple musical, notre pèlerinage en reggae et en dub au Mali avec notre invité spécial Manjul. À l'émission Giramundo, c'est Kaya 88,3.
Fara musoka, a la para. jeni sabote nanye tusuka ni alana kirasona mbansa kusuka.